Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de finance islamique. Que veut dire épithète islamique accolée à finance de nos jours ? Y a-t-il une finance proprement religieuse s'inspirant de l'éthique islamique ou pas ? Et pour évoquer ce sujet, j'ai plaisir à accueillir le professeur Anwar Hassoun.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue. Vous êtes un fin connaisseur de ces questions, expert en finance islamique, professeur de finance islamique à l'Université Paris-Dauphine, notamment dans le cadre des études du Master 2 de finance islamique, et chef d'entreprise dans l'industrie financière, si je puis dire. Et je n'ai pas trouvé meilleur que vous pour expliquer à nos auditeurs et à moi-même aussi, parce que c'est un domaine qui m'est hermétique, qu'est-ce que c'est que cette affaire de finance islamique. J'ai cru comprendre même récemment qu'il y a une finance dite catholique. Alors ces adjectifs accolés à finance commencent à pulluler et nous aimerions comprendre.
Avec grand plaisir. La finance islamique moderne existe depuis une cinquantaine d'années.
Dans les années 60 a-t-elle
Absolument,
commencé
Absolument, dans deux endroits où elle a émergé à peu près au même moment. Le premier endroit, c'est l'Égypte, la Haute Égypte, où pour la première fois, des expériences de finance islamique ont été conduites sur le terrain de la microfinance pour financer les populations les plus pauvres. Et puis à peu près au même moment, en 1963, a vu le jour une institution malaisienne qui consistait à capturer l'épargne des ménages malais dans la perspective de leur pèlerinage à la Mecque. Et puis, cette institution épargnée de manière charia compliant, j'aime pas beaucoup ce terme, je préfère en conformité avec les principes de la finance islamique.
Oui, à un moment donné, on avait même parlé, pardon pour l'anglicisme, charia advisor, charia compliant, c'est le fait que ça soit conforme, soi-disant, à la charia, considéré comme étant plutôt la loi divine, la loi révélée, la loi sacrée. Le mot a besoin d'être bien précisé et ce n'est pas exactement ce qu'on lui fait dire maintenant. Sur quoi repose cette idée de finance islamique ? Au-delà de l'aspect technique, y a-t-il une technique ou il y a des raisons pour qu'on parle de finance islamique ?
On reviendra sur les aspects techniques un peu plus tard dans la conversation. Le plus important, et ce que nos auditeurs doivent comprendre, c'est que la finance dite islamique est une finance principielle. Elle repose sur un certain nombre de principes, et en l'occurrence, il y en a cinq, c'est ce qu'on appelle les cinq piliers de l'islam financier. Alors ces cinq piliers de l'islam financier sont finalement assez faciles à comprendre, il faut simplement les décrire et puis ensuite les expliquer. Il y a trois interdictions et deux obligations. La première interdiction, c'est celle de l'intérêt. On le sait, la plupart des personnes de confession musulmane ou les non-musulmans qui s'intéressent à la finance savent que la finance islamique est une finance sans intérêt. Alors, il faut préciser, c'est une finance sans riba, qui est un terme arabe qui apparaît deux fois dans le Coran, et le terme riba veut dire enrichissement sans cause. Alors, en première analyse, la finance islamique...
En toute étymologie, c'est faire croître.
Absolument.
Sans cause.
Sans cause. Alors, en finance islamique, on ne peut pas se rémunérer quand on est banquier sur la seule base de l'intérêt. Alors il y a d'autres manières de se rémunérer, on verra ça un peu plus tard. La deuxième interdiction, qui est aussi très facile à comprendre, c'est qu'on ne peut pas financer autre chose que les secteurs qui sont considérés comme licites. Donc on ne peut pas faire de l'illicite. Alors qu'est-ce qui est illicite en islam ? On le sait, par exemple l'alcool ou la viande de porc, mais aussi l'armement offensif, mais aussi le tabac. Et on verra la raison pour laquelle ces secteurs sont considérés comme néfastes du point de vue de l'islam.
Il y a aussi certains secteurs dits de déchéance morale,
absolument,
comme l'industrie dite pornographique ou des choses comme ça.
Absolument. La troisième interdiction est plus subtile, dans le sens où une banque islamique ne peut pas spéculer. Alors, ça nous ramène à la question de savoir ce qu'est la spéculation par opposition à l'investissement. Alors, ce que nous disent les jurisconsultes, c'est que la spéculation est une activité d'investissement où le temps est trop court, les espérances de rendement sont trop élevées, et puis le niveau de risque est beaucoup trop fort. Alors là aussi, on peut creuser, on a 1400 ans d'histoire du droit musulman à notre actif qu'on peut convoquer à cette occasion. C'est pas le plus important. Les principes négatifs, les deux principes positifs sont beaucoup plus fascinants. Le premier, c'est le partage des profits et des pertes. Alors, pour une banque islamique, l'idée générale, c'est de pouvoir partager ses rendements avec ses clients, avec ses actionnaires, avec ses fournisseurs, enfin, avec toutes les entreprises ou les entités qui sont partie prenante à l'activité financière. Et puis enfin, au-delà du principe de partage des profits et des pertes, il y a aussi une obligation qui consiste à adosser toute transaction financière à un actif tangible. Là aussi, un exercice de définition s'impose. Qu'est-ce qu'un actif tangible par rapport à un actif intangible ? Alors, ce qu'on a l'habitude de résumer dans notre activité, c'est que cet actif doit préexister à l'activité financière, sauf dans un certain nombre d'exceptions. Mais en l'occurrence, on peut financer une table, un véhicule, un bien immobilier, une activité économique, mais on ne peut pas simplement financer la volonté de consommation. Ce sont des choses qui sont hors champ. Alors, on a dit, la finance islamique est une finance principielle, mais je pense que le plus important, c'est sa dimension axiologique. Axiologique, c'est-à-dire ses valeurs. Ces principes sont nés de quelque part. Elles sont nées d'un certain nombre de valeurs et si vous le voulez bien, on pourra creuser les valeurs qui traversent la finance islamique pour en comprendre l'essence.
Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à fait au début, j'ai retenu qu'il y a ces cinq piliers de l'islam financier, les trois interdictions, les deux obligations et la toute première interdiction qui est la proscription. Le mot « usure » n'est pas tout à fait approprié, c'est votre définition d'un accroissement sans cause, me fait dire que Aristote était le premier de dire que l'argent n'engendre pas d'enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une production sans cause réelle de l'argent. Mais la notion de cette usure, c'est parce qu'à l'époque, dans la période pré-islamique, on asservissait les gens qui ne pouvaient pas s'acquitter de leurs dettes.
Absolument. Et on retrouve effectivement ces questions chez Aristote, et l'accroissement sans cause suppose qu'on définisse ce que sont les causes légitimes. Et les causes légitimes en islam, qu'on retrouve aussi ailleurs, qu'on retrouve dans les deux autres religions monothéistes, qu'on retrouve dans un certain nombre de systèmes philosophiques, c'est le travail d'une part et la prise de risque d'autre part. Donc en l'occurrence, une banque islamique peut faire de la marge, c'est-à-dire s'enrichir et enrichir au même titre ses propres clients et ses actionnaires à la condition qu'un travail ait été effectué par elle, mais aussi par ses clients emprunteurs, qu'un risque ait été pris par elle-même et par les entrepreneurs qu'elle accompagne. Donc en l'occurrence, en première analyse, et c'est le résultat de l'interdiction du riba, accroissement sans cause, la finance islamique est favorable et prône à l'entrepreneuriat. Et ça, c'est important aujourd'hui.
Qu'est-ce qui, peut-être que je commence à me rapprocher des aspects techniques dont vous souhaitez que nous les abordions au fur et à mesure de notre entretien, remplacerait pour que ça soit viable l'absence ou pallier à l'absence du riba, de cet accroissement sans cause, de ce qu'on appelle improprement usure. C'est quoi ? C'est le fait de partager le risque ou pas ? Pardonnez-moi, ma question ne peut plus prosaïque. Étant indigent et démuni, je vais acheter une voiture à 10 000 euros et que vous, banquier, conformément à l'éthique islamique, l'achetez pour moi, mais vous me la vendez à 10 500 euros, il y a l'équivalent d'un intérêt.
C'est une très très bonne question et c'est tout le champ du travail technique qui a été accompli depuis un peu plus de 40 ans. Par l'ensemble des banques islamiques de la planète et on en recense un certain nombre. Il y a deux types de contrats en finance islamique et on a dit que c'était une finance principielle, on a aussi dit qu'elle est une finance axiologique, mais c'est aussi et surtout une finance contractuelle. Il y a deux grands types de contrats. La première catégorie de contrats sont les contrats dits de partage de profits et des pertes et la deuxième catégorie de contrats sont les contrats dits de non-partage des profits et des pertes qui sont une exception. On va commencer par la seconde catégorie. Dans la seconde catégorie, la banque islamique est un marchand de biens. C'est fondamental de comprendre ça. Parce que en comptabilité, et si vous voulez faire de la technique, on va en faire, en comptabilité, les banques islamiques, contrairement aux banques conventionnelles, accumulent des stocks. Des stocks de quoi ? Des stocks de biens immeubles et des stocks de biens meubles. Elles achètent et parfois même, elles construisent des biens immeubles pour leurs clients. Alors c'est une différence fondamentale parce que la banque islamique devient marchand de biens après avoir été constructeur ou fabricant. Ce qui n'est pas la vocation d'une banque en finance conventionnelle. Une banque ne fait que commerce de l'argent. Une banque islamique fait commerce de fonds, mais aussi de biens. Alors, pour le véhicule, on a deux types de contrats qui sont utilisés pour ce véhicule. Alors, tous les contrats commencent par mou et finissent par a. C'est assez compliqué pour les auditeurs qui ne sont pas arabisants, mais on va essayer de donner des traductions en langage vernaculaire. Le contrat de mouraba, en arabe, c'est mourabaha. Alors, le contrat de mourabaha consiste à acheter un bien et à le revendre avec une marge. Beaucoup considèrent que cette marge...
Il y a une notion de gain.
Il y a une notion de gain. Alors, c'est fondamental de comprendre qu'une banque islamique ne fait pas la charité. Elle n'achète pas à 100 et revend à 100. Elle va acheter à 100 et revendre à 120. Il n'y a aucune raison pour laquelle la banque islamique aurait une marge qui soit exactement équivalente à celle d'une banque conventionnelle. La marge peut être inférieure, peut être égale ou peut être supérieure en fonction des conditions de marché. Alors imaginez une banque islamique, par exemple au Koweït, par exemple Kuwait Finance House, sans vouloir la nommer, je ne fais pas de publicité, mais Kuwait Finance House dispose d'un showroom de véhicules où en permanence se trouvent entre 7000 et 12000 véhicules. Quand vous achetez en gros 12000 véhicules, le prix unitaire du véhicule a tendance à baisser. Et donc forcément, la banque islamique, puisqu'elle est marchand de biens, puisqu'elle stocke ses véhicules dans un showroom, in fine, la valeur économique pour le client baisse, quand bien même il y aurait une marge. Alors, imaginez le même scénario avec une banque islamique qui construit ses biens immeubles. Par exemple, Tamwil aux Émirats Arabes Unis. Tamwil, ça veut dire financement, c'est une banque islamique. Et ce qu'elle fait, Tamwil, c'est qu'elle n'achète pas des appartements et des villas, elle les construit. Donc, elle est promoteur immobilier. Alors, ça change tout. BNP Paribas n'est pas promoteur immobilier, le Crédit Agricole non plus.
Même s'il y a quelques opérations sous forme de SCI ou quelque chose comme ça avec ces banques-là.
Mais c'est le client. Qui est in fine propriétaire via la part fonds propres des actifs sous-jacents avec ou sans levier financier. On peut le faire aussi en finance islamique, c'est pas très compliqué. Alors, vous voyez bien que finalement, la banque islamique, c'est de la finance plus. C'est-à-dire que c'est de la finance, on fait commerce de deniers, qui vient de dinars, mais aussi commerce d'autres choses. Et c'est cette autre chose-là qui donne cette epsilon d'âme supplémentaire à la banque islamique qui est beaucoup plus proche du terrain, beaucoup plus proche de l'économie réelle.
Alors, j'ai retenu la leçon. Il y a trois dimensions. Il y a une approche plutôt principielle, une deuxième axiologique et une troisième contractuelle. Au niveau de l'éthique, de ses valeurs, ça rend l'activité financière viable. Et en plus, on part de l'idée que le commerce illicite et l'usure, ou en tout cas le prêt à intérêt, est plutôt proscrit et interdit.
Absolument, c'est la clé de voûte de la finance islamique qu'on retrouve dans la sourate numéro 2, où le commerce est la base de ce que les banques islamiques doivent financer. Les échanges de biens et pas simplement les échanges d'argent. Alors il y a tout un tas de valeurs qui traversent la finance islamique. À l'université Paris-Dauphine, on en a recensé un peu plus de 25, mais je vous donner quelques exemples. Le premier principe, le principe de riba, est le corollaire d'autre chose. Alors c'est le corollaire du fait que la production précède l'échange. En finance islamique, c'est intéressant. On ne peut qu'à de rares exceptions près financer une activité économique ou un bien qui n'existe pas. Donc la production préexiste à l'échange d'argent. Ce qui nous fait dire que, in fine, la finance islamique, si elle est 100% d'un système économique ou d'un système financier, ne peut pas créer de monnaie. Vous savez qu'en finance conventionnelle, la création monétaire est le fait des banques conventionnelles. Elle est autorisée par la banque centrale. En finance islamique, ce n'est pas possible. Pas de création monétaire, donc il ne peut pas y avoir d'inflation. Et on dit souvent que finalement, la finance islamique est anti-inflationniste. D'accord ? Création monétaire est impossible en dehors d'une croissance réelle.
À ce sujet, et pour le profane que je suis, La finance ou les banques islamiques, il leur arrive aussi d'emprunter de l'argent ou d'avoir de l'argent de la banque centrale, est-ce avec intérêt ou pas? Et si c'est le cas, comment résoudre ce paradoxe?
En général, les banques islamiques n'empruntent pas auprès des banques centrales, sauf dans des cas extrêmes, qui sont des cas d'illiquidité. Et en principe, ces cas d'illiquidité sont de deux ordres, soit des cas d'illiquidité idiosyncrasique, c'est-à-dire spécifiques à une banque particulière, soit systémiques. Auquel cas, vous avez, en tant que banquier, deux options. Crever de manière charia compliant ou survivre de manière non charia compliant. Si la banque centrale a un système de refinancement des banques conforme au principe de la finance islamique, alors les banques vont l'utiliser. Sinon, elles utiliseront de l'argent ribawi, de l'argent conventionnel, usuraire, mais au regard du principe de nécessité, le principe qu'on dit de daroura.
Oui. Alors, la nécessité fait loi.
C'est arrivé. La crise financière de 2008 a eu des conséquences sur les banques islamiques. Alors, pas immédiatement, pas de 2008 à 2012, où c'était essentiellement une crise de nature hypothécaire, immobilière aux États-Unis, qui ensuite a dégénéré en crise de confiance. Mais à partir de 2012, la liquidité mondiale s'est tarie. Il n'y avait plus de cash nulle part et les banques islamiques étaient comme les autres. Elles ont subi ce tarissement de liquidité. Je vais donner l'exemple des Émirats Arabes Unis. Aux Émirats Arabes Unis, un certain nombre de banques, y compris islamiques, étaient en situation de crise de liquidité. Elles ont emprunté auprès de la Banque Centrale des Émirats Arabes Unis de manière charia compliant. Et l'actif sous-jacent, c'était des matières premières qui étaient utilisées comme instrument d'échange sous-jacent à la liquidité. Alors, c'est pas commun, mais ça arrive.
Dans cette première partie où nous essayons de nous familiariser, le « nous », ce sont les auditeurs et votre serviteur, avec cet univers de la finance islamique. Mais que faisions-nous, que faisaient les gens, et notamment les musulmans, avant les années 60, avant cette affaire d'Égypte et de Malaisie, pour vaquer à leurs occupations, pour s'adonner au commerce, pour construire? C'était la finance classique.
Absolument. Les États et les pays musulmans, ou à majorité musulmane, utilisaient la finance conventionnelle parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Alors depuis les années 70, les alternatives existent dans un certain nombre de pays, pas partout. Et aujourd'hui, les clients ont le choix. Et c'est un peu l'idée que nous défendons lorsque nous participons à des conférences, des séminaires ou des workshops un peu partout sur la planète. C'est que le choix du consommateur est important. À partir du moment où vous avez une composante musulmane dans un marché, il est intéressant de fournir une option islamique à cette composante musulmane de telle sorte à laisser le choix au client de consommer halal ou pas, un peu comme pour la boucherie ou d'autres biens de consommation courante. Vous savez, il est intéressant aussi de constater que l'argent, le marché de l'argent, le marché financier, n'a pas la même saveur que le marché des biens de consommation courante un peu partout. Il y a de la résistance pour la finance islamique dans des mêmes endroits où il n'y a pas de résistance pour le steak halal.
Même si pour certains, pour la viande halal, il y a l'émergence d'un marché, ça a l'air d'être récent. Quand je dis récent, ça remonte peut-être à deux décennies. Anwar Hassoun, même dans les sociétés majoritairement musulmanes, quelle est la part de la consommation, si je puis dire, selon la finance islamique?
Les chiffres divergent de manière radicale d'un pays dit musulman à l'autre. Alors on va faire une approximation, on va dire que les pays musulmans sont la cinquantaine d'États membres de l'Organisation de la coopération islamique et qui sont aussi les États actionnaires de la Banque islamique de développement. Alors, il y a des musulmans ailleurs, hein, bien évidemment, mais on va dire que c'est à peu près ça. Les chiffres divergent de manière assez radicale. Prenez par exemple la Tunisie. La part de marché de la finance islamique ou participative, vous l'appelez comme vous voulez, en Tunisie est inférieure à 5%. Et puis, vous allez à l'autre bout de la planète, en Malaisie, qui a commencé son aventure de finance islamique dans les années 80, au tout début des années 80, grâce à Mahathir, au demeurant. Et aujourd'hui, la part de marché de la finance islamique en Malaisie est de 25%. En Arabie Saoudite, elle est de 50%. Dans les autres États du Golfe Persique, de l'ordre de 30%. Et puis, prenez la Turquie, hein, qui est réputée être un État favorable à l'émergence de la finance islamique sur son territoire. La part de marché est inférieure à 10%. Donc, il faut relativiser d'un pays à l'autre. Dans le monde, la part de marché de la finance islamique est légèrement inférieure à 1%. Et si on doit donner un chiffre qu'on doit garder en tête, la masse, en termes de volume, hein, de stock d'actifs financiers conformes aux principes de la finance islamique, c'est 2000 milliards de dollars à fin 2017. On attend avec impatience la publication des chiffres fin 2018. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, 2000 milliards, c'est à peu près 20 fois le PNB du Maroc. Donc c'est comme si vous empiliez 20 Maroc les uns par-dessus les autres et vous aurez un ordre de grandeur de ce qu'est la finance islamique aujourd'hui dans le monde.
Sus ansias, sube o sea al mi rador, y echa los ojos lejos, y en
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de finance islamique avec Anwar Hassoun, expert justement en finance islamique, professeur de finance islamique à l'Université Paris-Dauphine, chef d'entreprise et le secteur d'activité est la finance islamique. Pour cette deuxième partie, si vous voulez bien, Anwar Hassoun, parlons, parce que je vous ai entendu dans un autre contexte, et pour vous dire la vérité, et je prends à témoin nos auditeurs, c'est pour ça que j'ai pensé à vous, et je vous en sais gré d'avoir accepté. Vous parliez aussi de la monnaie virtuelle en contexte de finance islamique, et au lieu que ce soit le bitcoin, c'est plutôt le kintar. Vous devriez nous expliquer cela. Et est-ce que ça a un sens aussi de parler de monnaie virtuelle en contexte de finance islamique, alors que vous me disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas de production de monnaie ?
Cette question est fondamentale et elle nous force à revenir aux sources de ce qu'est la finance islamique, non pas tellement dans sa dimension principielle, mais dans sa dimension axiologique. Alors, il faut réellement mettre les choses en perspective. Il existe aujourd'hui un peu plus de 1500 crypto-monnaies. On peut les appeler monnaies virtuelles, on peut aussi les appeler monnaies électroniques. Il en existe très peu, à ma connaissance une, et peut-être bientôt deux. Le travail n'est pas complètement terminé, le fameux kintar que vous mentionnez un peu plus tôt dans la conversation. Et forcément,
expliquons l'appellation simplement, ça veut dire 100. Quintal, en quelque sorte, c'est ça l'idée.
D'ailleurs, il vaut 100 francs suisses. En tout cas, a priori, le quintal n'a pas encore été émis. On est encore en train de travailler dessus. Alors, les 1600 monnaies virtuelles ou crypto-monnaies sont adossées essentiellement à une croyance. On croit en la quantité de transactions qui donne naissance à cette monnaie virtuelle. Le Bitcoin, Ethereum et quelques autres sont fondés là-dessus, sont finalement fondés sur des nœuds de contrats. Il nous a semblé important, nous autres professionnels de la finance islamique, d'occuper ce terrain. Et il fallait deux choses pour qu'une monnaie virtuelle, ou une crypto-monnaie, ou une monnaie électronique, devienne conforme aux principes de la finance islamique, si vous vous rappelez bien les principes. La première dimension, c'est qu'il fallait que les fonds qui soient levés par émission de cette monnaie virtuelle servent à la création d'actifs réels. Et la deuxième condition, c'était que les contrats de la blockchain étant le système électronique garantissant la valeur de cette monnaie, et surtout sa sécurité et sa sûreté, soient eux-mêmes adossés à des contrats de finance islamique. Et on l'a vu tout à l'heure, la finance islamique est adossée à un certain nombre de contrats, il y en a une dizaine, qui nous servent à opérer les transactions financières. Alors comment on a fait ? Eh bien c'est simple, la blockchain est totalement adossée à des contrats de finance islamique, c'est pour ça qu'on l'appelle la Islamic blockchain, ISL blockchain. Donc tous les contrats que vous utilisez en utilisant la ISL blockchain sont des contrats de finance islamique. Les murabaha, les ijara, les mudaraba.
Nous allons tous
les passer en revue. Et puis, l'autre dimension importante, c'est quels sont ces actifs sous-jacents si importants que nous allons financer avec l'émission de cette monnaie. Bien, c'est très simple. Ce sont 8 millions de mètres carrés qui se trouvent en Arabie Saoudite et notamment dans les lieux les plus saints de l'islam. Alors, ces 8 millions de mètres carrés sont en concession pendant 50 ans. Et l'idée, c'est de construire des actifs immobiliers sur ces 8 millions de mètres carrés. Ce seront des hôtels, des résidences d'habitation, et puis aussi de l'activité d'immobilier commercial. Alors encore une fois, je le précise, l'affaire n'est pas encore faite puisque nous sommes encore en train de travailler sur les aspects technologiques et aussi sur les aspects de contrat. Les annonces seront faites en temps et en heure. Le promoteur immobilier est une entreprise saoudienne dont l'identité sera révélée en temps voulu. Donc voilà, l'idée était d'occuper le terrain de la monnaie virtuelle. Alors, la question sous-jacente est la suivante. Pourquoi avons-nous besoin de monnaie virtuelle? Aujourd'hui, les monnaies ne sont rien d'autre que des dettes de banques centrales. Et les banques centrales, après la crise financière de 2008, ont montré un certain nombre de limites. Un certain nombre de clients, d'investisseurs ne croient plus dans le dollar, ne croient plus dans l'euro, ne croient plus dans la capacité des banques centrales à piloter une politique monétaire crédible. Il y a un problème de crédibilité de banque centrale, ce qui nourrit forcément la nature ayant horreur du vide, et la nature financière a encore plus horreur du vide, ce qui nourrit l'émergence de monnaies concurrentes.
Si un de nos auditeurs ou une auditrice a envie d'acquérir de cette monnaie, enfin, via cette monnaie, elle n'a qu'à acquérir quelques mètres carrés ou plusieurs mètres carrés selon sa richesse dans cette région proche de la Mecque.
C'est dans l'autre sens qu'il faut prendre, qu'il faut prendre la question. En acquérant des quintars, qanatir au pluriel, mais des quintars avec un S si on devait franciser l'expression, en acquérant ces monnaies électroniques, les investisseurs deviennent mécaniquement propriétaires de la valeur inhérente à la création de richesses qui sera la conséquence du développement hypothécaire sur les 8 millions de mètres carrés. Mais vous savez qu'un étranger ne peut pas posséder 2 mètres carrés en direct dans les lieux saints de l'islam. Par conséquent, on est obligé de passer par des contrats d'entreprise. Donc vous êtes propriétaire d'une entreprise qui elle-même est propriétaire du droit à la concession et donc à la construction.
Pour des considérations liées à la politique du royaume d'Arabie Saoudite. Passons, si vous voulez bien, Anwar Hassoun, à ces différents contrats. Vous avez parlé d'une vingtaine, peut-être même au-delà, mais les principaux sont, j'ai entendu tout à l'heure, la murabaha, que vous avez bien francisé en murabaha. J'ai cru comprendre qu'il y a dedans une notion un peu de gain ou de bénéfice. En quoi ça consiste? Et puis on aura d'autres, si vous voulez bien nous les expliquer.
La murabaha, on revient dessus 30 secondes et puis ensuite on passe à des contrats plus intéressants d'un point de vue technique et conceptuel. La murabaha consiste à acheter un bien en tant que banque et à vous le revendre. Donc il y a vraiment deux transactions dans le même contrat.
Une double vente.
Absolument. Enfin... Alors, si vous prenez l'exemple d'un bien immobilier, une maison ou un appartement, la banque se substitue à vous dans la première partie du contrat de murabaha en achetant le bien immobilier, puis vous le revend. Alors, l'achat est immédiat, ce qu'on appelle en finance un achat spot. On l'achète, la banque l'achète tout de suite, l'appartement à 200 000 euros à Nancy, par exemple. On l'achète à 200 000 euros et puis ensuite vous
peut-être
le revend.
Peut-être pas place Stanislas parce que ça coûterait un peu plus
absolument,
cher.
Absolument, là je pense que vous auriez 12 mètres carrés et encore. Donc en l'occurrence, elle l'achète et puis vous le revend. Et puis le contrat de revente, lui, se fait de manière purement contractuelle, c'est-à-dire que les échéances sont contractuelles. En revanche, ce qui est fixe, c'est la marge. C'est-à-dire que la banque islamique l'achète 200 000 et vous le revend, par exemple, 282 000. Ces 282 000 sont totalement fixés. On ne peut pas changer la marge, la chose est faite.
Mais pardon, je peux l'acheter en payant des traites.
Tout à fait. D'accord. Alors ces traites, en général, pour une question de simplicité et de comptabilité, les mensualités sont elles-mêmes fixes, c'est-à-dire qu'on va prendre 282 000 et puis on va diviser par le nombre de mensualités, ce qui vous donne finalement une sorte de visibilité et de prévisibilité des flux que vous allez devoir rembourser. Mais il faut savoir que d'un point de vue pour les puristes, la deuxième partie du contrat de Murabaha est totalement contractuelle. Par exemple, pendant 2 ans, vous pouvez ne payer aucune mensualité et puis ensuite payer des mensualités plus importantes pendant 6 ans et des mensualités encore plus importantes pendant les 12 ou 13 années qui suivent si on estime que c'est un contrat de 20 ans. C'est le contrat le plus utilisé parce que c'est le plus simple. En revanche, il nous interdit de faire plein de choses. Par exemple, il nous interdit d'avoir des marges variables. Et c'est la raison pour laquelle les banques islamiques ont inventé, mais ce n'est pas un nouveau contrat, c'est un contrat qui date d'il y a 14 siècles, le contrat de Ijara. Le contrat de Ijara est un contrat de crédit-bail. Alors là, on va prendre l'exemple du véhicule, puisque c'est celui que pour lequel vous avez opté dès le départ. Le véhicule, la banque l'achète, elle en reste le propriétaire et le met en location pendant un certain temps. Et puis, au terme du contrat de Ijara, vous avez une option. Celle de racheter le véhicule à la valeur résiduelle, à la valeur amortie, ou de ne pas le racheter, c'est-à-dire de le laisser en propriété à la banque, qui elle-même en fera ce qu'elle veut, soit le recéder, soit le louer. Contrat de Ijara, c'est très très utile pour un certain nombre d'activités, notamment les biens d'équipement, mais aussi les biens immobiliers à usage commercial ou à usage industriel. Les usines, par exemple, sont financées sous contrat d'Ijara, les turbines, un certain nombre de financements de projets sont financés comme ça. Alors, on va s'éloigner un petit peu et petit à petit des contrats non partage des profits et des pertes pour aller vers les contrats plus intéressants de partage des profits et des pertes. Je voulais simplement souligner l'importance du contrat dit de istisna, qui vient de la racine sana'a, qui veut dire fabriquer. Les contrats de istisna sont des contrats de fabrication. Par exemple, lorsqu'au Maroc, vous souhaitez, en tant que promoteur ou l'État lui-même, développer des projets éoliens ou solaires, vous pouvez parfaitement utiliser un contrat de istisna'a, qui consiste pour la banque islamique à financer l'ensemble des facteurs de production. La fabrication des panneaux, l'installation des panneaux, financer la main-d'œuvre pour...
Si c'est de l'éolien, les hélices, etc.
Absolument. Bon, donc la banque islamique se substitue à l'entrepreneur ou à l'État pour la constitution du parc éolien ou du parc solaire. Une fois le parc installé, à ce moment-là, on va utiliser le contrat d'Ijara, qui est le contrat de location. Donc en général, au contrat d'istisna s'ajoute un contrat de Ijara. Au contrat de fabrication s'ajoute un contrat de leasing.
Oui. Il y a aussi, me semble-t-il, un autre contrat qui est celui de la Mudaraba. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire ?
Alors ça, ce sont les contrats de partage des profits et des pertes. Les contrats de Mudaraba et les contrats de Musharaka sont des contrats qui sont réservés aux entrepreneurs.
Donc on en a deux.
On a plusieurs, mais en l'occurrence, on en a deux qui sont les plus utilisés. Ce sont des contrats qui consistent pour la banque islamique à fournir les deniers, les dinars, mais à l'entrepreneur à fournir tout le reste. Son travail, son génie, son carnet d'adresses, son savoir-faire. On dit, dans ce cas-là, que la banque islamique est le partenaire monétaire, tandis que l'entrepreneur est le partenaire économique, où il apporte tout le reste, mais pas forcément les deniers pour le faire. Alors un exemple, vous avez une start-up qui a plein d'idées, qui a un savoir-faire technologique, qui a sans doute un nouveau produit, mais n'a pas les sous. Cette start-up, elle a deux possibilités. Celle d'avoir un business angel qui viendrait investir au capital, qui serait actionnaire. Ou alors, de se tourner vers la banque islamique qui n'a pas vocation à être actionnaire, mais qui a vocation à partager les pertes et les profits selon une formule qui est déterminée dans un contrat. 50-50, 40-60, 30-70, ça dépend. Ce contrat-là de Mudaraba est un contrat de prêt participatif. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du capital, ce n'est pas de l'equity, ce ne sont pas des fonds propres. La banque n'est pas co-actionnaire de l'entrepreneur. En revanche, si la banque souhaite être co-actionnaire de l'entrepreneur, à ce moment-là, ce n'est plus un contrat de mudaraba, un contrat d'agence, c'est un contrat de musharaka, c'est-à-dire de copropriété.
On va revenir sur les mots et leur étymologie. Mudaraba, ça renvoie à quoi étymologiquement ? À une notion de multiplier, à une notion...
Étymologiquement, alors, c'est davantage un contrat d'agence, d'accord ? Où l'entrepreneur est l'agent, on dit qu'il est le mudarib. Tandis que la banque est rabbelmal, c'est-à-dire propriétaire des deniers, d'accord ? En revanche, dans un contrat de musharaka, et là la racine étymologique c'est
l'association.
Voilà, ça a donné sharika d'ailleurs, ça a donné entreprise, société. Hein. C'est un contrat de société où la banque islamique devient co-actionnaire. Et en devenant coactionnaire, elle devient aussi copropriétaire. Ce qui est intéressant dans un contrat de musharaka, c'est que en général, on lui adosse un qualificatif, un adjectif, c'est musharaka mutanaqisa. Alors, pour les non-arabisants, c'est un contrat de société, donc de coactionnariat, diminutif ou diminuant ou régressif. Au fur et à mesure que l'entrepreneur musharik partenaire génère de la croissance, génère du rendement, sa part de copropriété augmente et la part de copropriété de la banque islamique diminue. Mais vous savez, on peut faire ça pour une entreprise, on peut aussi parfaitement le faire pour un bien immobilier. On peut imaginer que la banque et un client deviennent copropriétaires d'un bien immobilier. Le client en a l'usage, l'usufruit, et la part de copropriété de la banque est dégressive au fur et à mesure du temps. Partenariat ou contrat de société dégressif, c'est quelque chose qu'on retrouve de temps en temps dans le Golfe Persique, assez peu en Asie et de manière assez récurrente dans le monde de la start-up et des nouvelles entreprises.
Et tout en vous écoutant, j'ai pensé à cette singularité de la langue française. Quand on est membre d'une société, on est associé. Quand on est membre d'une association, on est sociétaire. Anwar Hassoun, il y a encore un autre sujet qui est celui de l'assurance ou de la mutuelle, qui est le takaful aussi. Étymologiquement, ça pourrait envoyer à l'idée de prendre en charge, en quelque sorte.
Absolument, ce qui nous donnera l'occasion de parler des contrats de wakala. Alors, une différence majeure entre le takaful, qui est l'assurance islamique, et l'assurance conventionnelle, à plusieurs titres. La première chose qui distingue l'assurance conventionnelle de l'assurance islamique, c'est que l'assurance islamique, elle est par définition mutuelle. Alors comment ça se passe? Si vous et moi souhaitons assurer notre véhicule, puisque votre véhicule a été financé sous contrat d'Ijara, donc forcément vous devez consommer un contrat de takaful qui lui est attaché,
Vous allez faire... Dans tous les cas, je suis charia compliant.
Absolument, absolument. Vous allez faire un don et non pas souscrire une police d'assurance qui n'est pas possible en finance islamique. Alors vous allez faire un don à quoi? Vous allez faire un don à un fonds, qu'on appelle le fonds de takaful. Ce fonds, c'est vraiment une caisse qui collecte les dons, non pas des fidèles, mais des assurés. D'accord? Ce don va ensuite être géré par un opérateur de takaful, c'est la société d'assurance islamique. Elle a un rôle très restreint. Cet opérateur, cette société d'opération de takaful, elle va gérer ses fonds et gérer les sinistres. Alors, l'opérateur de takaful va bien évidemment, en tant que société, avoir du capital, des fonds propres. Et la somme des fonds propres et du fonds de takaful va être investie dans un certain nombre d'actifs islamiques. Alors, ça peut être des actifs monétaires, ça peut être des actifs obligataires et des actifs immobiliers. De deux choses l'une, soit la rentabilité du fonds est positive, auquel cas, l'excédent de rentabilité va être redistribué aux donateurs. C'est-à-dire que finalement, en finance islamique, en assurance islamique, il n'y a ni boni ni mali. Il y a un don en début d'année et ensuite un retour sur ce don. Ça, c'est dans un cas favorable de la nature. C'est-à-dire que la somme de la performance financière et de la performance technique de la compagnie d'assurance est positive. En revanche, si l'investissement produit un rendement négatif pour cause de crise financière internationale en 2008, alors l'opérateur de takaful, la société qui est en charge du fonds, doit faire un prêt à taux zéro au fonds de takaful pour reconstituer le fonds. Et c'est ce qui fait un nœud de solidarité. Il existe une solidarité à l'intérieur du fonds entre les participants donateurs et il existe un lien de solidarité entre le fonds en tant que personne morale, comme au Maroc, le fonds de takaful au Maroc a la personnalité morale et l'opérateur de takaful. Ce qui rend le mécanisme assurantiel beaucoup plus mutualisé qu'en finance conventionnelle. C'est la différence majeure entre une compagnie de takaful et une société d'assurance, une compagnie d'assurance classique. طلوا
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de finances islamiques avec Anwar Hassoun, expert justement en finances islamiques, professeur de finances islamiques à l'Université Paris-Dauphine et chef d'entreprise dans le domaine. Toutes ces entreprises relèvent de l'industrie, si je puis dire, financière et tout particulièrement de la finance islamique. Anwar Hassoun, quel est le présupposé axiologique, cette fois-ci, de ne pas accepter une assurance conventionnelle? Ou même, selon vous, par rapport à la fameuse loi révélée ou considérée comme telle, parce qu'on n'a pas envie d'anticiper quelque chose qui serait décrété par le divin?
Absolument, c'est la raison de fond. Et en finance islamique, les garanties ne sont pas possibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une promesse sous forme de contrat, sur un aléa. On peut faire une promesse sur des choses qui sont fortement probables, voire certaines. Mais on ne peut pas faire une promesse sur un aléa. Donc les garanties ne sont pas possibles. Si les garanties ne sont pas possibles, il faut trouver d'autres mécanismes. Et ce mécanisme repose sur le double contrat de Wakala Mudaraba. Alors, le fond de Takaful qu'on a décrit il y a quelques instants, contracte avec l'opérateur de Takaful. Et ce contrat est un contrat dual. Le premier contrat est un contrat de wakala. Le contrat de wakala, c'est un contrat d'agence simple. C'est-à-dire que finalement, lorsque je suis donateur à un fonds de Takaful, je m'en remets à l'opérateur. Et l'opérateur va gérer ses fonds.
Parce que wakala, étymologiquement, renvoie à la notion de procuration.
Exactement, c'est une procuration. Moi, donateur au fonds, je n'ai pas de velléité particulière. Je ne vais pas gérer le fonds. Et donc cette gestion, elle est déléguée à l'opérateur de Takaful, dont c'est le métier. Et son métier, c'est d'investir. D'investir pourquoi ? Pour générer du rendement. Et ce rendement va servir à accumuler des fonds à l'intérieur du fonds, de telle sorte à rémunérer les sinistres en cas de sinistre. Le deuxième contrat qui lie le fonds de Takaful à l'opérateur, c'est un contrat de Mudaraba qu'on vient juste de décrire. Ce contrat de Mudaraba est un contrat d'incitation. C'est-à-dire, plus l'opérateur de Takaful va faire du rendement et plus il va être incité à faire du bon rendement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces investissements sont eux-mêmes alloués à des classes d'actifs qui sont Sharia compliant. Par exemple, une compagnie de Takaful, sur le marché monétaire, ne peut placer son excédent de trésorerie que dans des banques islamiques ou des fenêtres islamiques. En termes obligataires, la compagnie de Takaful va investir dans des soukouks, qui sont l'équivalent obligataire des obligations conventionnelles. Et puis ensuite, dans l'immobilier, il faut que l'immobilier soit lui-même conforme aux principes de la finance islamique. Alors quand vous voyez l'écosystème d'une compagnie de Takaful, vous voyez bien que vous avez trois grandes catégories, trois grands ensembles. Le fonds de Takaful, qui est l'assurance mutuelle des donateurs, et en donnant, vous recevez un droit, le droit d'être couvert en cas de sinistre. L'opérateur de Takaful, qui finalement a une responsabilité limitée, qui consiste à gérer le fonds et à s'assurer que le résultat technique et financier soit suffisamment positif pour assurer la pérennité du fonds. Et puis enfin, les classes d'actifs qui sont représentées par les acteurs de l'économie réelle qui créent de la richesse. Donc on est totalement là en phase avec l'esprit de la finance islamique, tout autant qu'avec sa lettre, et on s'éloigne de manière assez significative de la finance conventionnelle qui consiste finalement qu'à faire commerce de garantie.
Oui, Anwar Hassoun, j'essaie de comprendre. Moi, si je fais un don, il est gratuit, comme son nom l'indique. Je n'attends pas un retour. À l'extrême rigueur que je sois couvert en cas de sinistre, je pourrais le comprendre. Mais l'idée que si le fonds est bénéficiaire et qu'il me restitue quelque chose, ce n'est plus une affaire de don. On est dans une forme de contrat moral.
Oui et non. Je vais commencer par le non. Le 1er janvier d'une
mais
année...
Pourtant, vous n'êtes pas normand.
Tout à fait. Plutôt lorrain. Le 1er janvier d'une année, l'assuré fait un don. Ce don lui donne un droit d'être couvert en cas de sinistre, mais ne lui donne pas forcément un droit à une rentabilité fixe. Le retour sur investissement, ce qu'on appelle le cashback, est inconnu. Il peut être très élevé, il peut être limité, il peut être nul, il peut être négatif. Et on l'a dit, hein, en cas de cashback négatif, alors l'opérateur de Takaful est obligé de faire un prêt à taux zéro. C'est un droit à un excédent de création de richesse. Mais ce n'est pas un droit à une rentabilité qui est fixée à l'avance. Et cette variabilité du rendement potentiel répond aussi à l'absence de boni et de mali. Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que si moi, conducteur de véhicule, je suis quelqu'un de sérieux, je conduis bien, j'attache ma ceinture, je respecte les limitations de vitesse, je n'ai pas d'accident, je n'aurai pas davantage de rendement qu'un autre conducteur qui se serait comporté de manière peu civique. C'est réellement une assurance mutuelle. Elle n'est pas individualisée, elle est collective. En revanche, ce qui est individualisé, c'est la quantité de dons que vous donnez et qui va être consubstantielle à la quantité de rendement que vous allez recevoir et aussi à la protection contre les sinistres futurs.
Oui, je ne voudrais en aucun cas et d'aucune manière être pinailleur, mais je ne comprends pas pourquoi on l'appelle don. Ça aurait pu être une participation, une quote-part, une sorte de police, l'équivalent d'eux. Parce que la notion de don implique la gratuité.
Alors, le terme arabe, et peut-être allons-nous devoir pinailler, le terme arabe, c'est tabarru.
Oui, ça c'est donné volontairement, c'est donné, oui, effectivement,
c'est, donné.
C'est
alors,
faire un don.
Les anglo-saxons, quand ils traduisent tabarru dans le golfe Persique et en Malaisie, l'appellent contribution.
Ah, c'est une contribution,
c'est une contribution.
Ça aurait été, mais...
Alors, en français, on a tendance à traduire par don, mais force est de reconnaître que le terme contribution est sans doute plus juste. Nous allons revoir nos manuels d'enseignement.
Ça rejoint la notion de la contribution pour les impôts qu'on donne à l'État, qui les restitue sous forme de biens publics pour l'ensemble des citoyens.
Tout à fait. Bon. Force est aussi de reconnaître, et on a parlé des chiffres tout à l'heure, le Takaful dans le monde est le parent pauvre de la finance islamique. Aujourd'hui, la somme des contributions collectées annuellement auprès des clients assurés par les compagnies de Takaful ne s'élève qu'à 25 milliards. C'est-à-dire, par rapport aux 2 milliards, une goutte d'eau. Ce qui s'explique par le fait que, dans un certain nombre de pays, notamment dans le Golfe Persique, les assurances ne sont pas obligatoires. Et quand elles ne sont pas obligatoires, les incitations à consommer des produits de Takaful sont faits, puisque l'État se substitue à un certain nombre de familles et de résidents. Lorsque, et si, l'assurance devient obligatoire dans un certain nombre de pays musulmans, il est à prévoir une croissance importante de la composante Takaful dans l'industrie financière islamique mondiale. Aujourd'hui, l'industrie financière islamique mondiale est dominée par les banques.
Anwar Hassoun, si nous devions faire une cartographie de la présence de la finance islamique un peu partout de par le monde, et peut-être pas nécessairement dans les sociétés majoritairement musulmanes, ou ce qu'on appelle les contextes islamiques, puisque l'appellation monde musulman, pays musulman est plus que problématique, dans les pays anglo-saxons, ce n'est pas la même chose qu'en France, par exemple, et est-ce que vous avez une idée pourquoi ça n'a pas pris, ou où est-ce que ça a pris dans une certaine mesure?
Oui, nous avons étudié ce phénomène à la fois chez les professionnels et chez les professeurs d'université. Alors, en première analyse, vous avez deux grands hubs de la finance islamique dans le monde. Et ces deux hubs sont particuliers. Ils sont à la fois tous les deux asiatiques et tous les deux anglo-saxons. La Malaisie d'abord, depuis les années 80, où la Malaisie est très forte dans la désintermédiation financière, les soukouks, hein, les obligations islamiques, dans l'industrie du takaful, est un peu moins forte en banque islamique. Et puis, vous avez le Golfe Persique, où là, vous avez une prédominance des banques islamiques, un retrait de l'industrie du takaful et le caractère très dynamique des émissions de soukouk. Aujourd'hui, on est à 150-180 milliards d'émissions d'obligations islamiques dans le monde, ce qui est beaucoup. Alors, en dehors de ces deux hubs, qui sont les deux piliers géographiques de l'industrie de la financial compliance dans le monde, vous avez effectivement l'émergence d'une finance islamique anglo-saxonne, notamment à Londres, qui abrite sur son territoire pas moins de 5 institutions financières islamiques, l'une qui sert les particuliers, les ménages, et 4 autres qui servent les institutions et qui font essentiellement de la gestion d'actifs et de la banque privée. Alors, le monde anglo-saxon est très, très pragmatique, comme on le sait tous, et notamment la place financière de Londres, qui est une des toutes premières au monde, qui a souhaité, depuis le début des années 2000, après une stratégie particulièrement bien pensée, à attirer sur son territoire des institutions capables de gérer l'argent de l'islam. En dehors du monde anglo-saxon, il est plus délicat de traiter de finances islamiques, et notamment en Europe continentale. Si c'est là votre question, alors oui, parlons-en.
J'ai cru comprendre, mais nous nous approchons du terme de l'émission, que du temps où Christine Lagarde était ministre de la finance en France, était plutôt favorable à la finance islamique. Et peut-être encore un dernier mot, si vous pouvez, Anwar Hassoun, nous parler de ces soukouk, pluriel de sac, qui donnent d'ailleurs le chèque, comme obligation islamique. Alors, l'une et l'autre, Christine Lagarde plutôt favorable, à ma connaissance, mais peut-être que vous pourrez me démentir, et puis ces notions d'obligation islamique.
Christine Lagarde, en 2007, était très favorable à la finance islamique en France. Elle souhaitait que la France concurrence Londres en tant que hub européen de la finance islamique, et forcé de reconnaître aujourd'hui que c'est plutôt le Luxembourg qui a pris ce chemin-là. Aujourd'hui, Christine Lagarde dirige le FMI, et au FMI, elle ne tarit pas d'éloges devant ce que la finance islamique peut apporter en termes de stabilisation de l'écosystème financier mondial, puisque ces principes sont des principes éthiques, on l'a dit, hein, la finance islamique est une composante éthique de la finance mondiale, et depuis lors, le FMI a produit un certain nombre de documents qui sont plutôt favorables, quoique critiques, vis-à-vis de la finance islamique. Alors, on va faire le lien avec les soukouks. Christine Lagarde, en 2007, était favorable à l'émergence d'au moins une banque islamique sur le territoire français, de telle sorte à gérer l'argent de l'islam, mais aussi à gérer l'argent des musulmans de France et des musulmans d'Europe. Mais elle souhaitait aussi que la place de Paris devienne un centre névralgique d'émission de soukouks. Alors qu'est-ce que c'est que ces soukouks ? Ces soukouks sont l'équivalent islamique des obligations, à la différence près que des soukouks sont des émissions obligataires, donc c'est de la dette, mais adossées à des actifs tangibles. Par exemple, pour les infrastructures, pensez au Grand Paris. On aurait parfaitement pu financer les travaux d'infrastructure du Grand Paris avec une émission de soukouk, en disant que finalement, les rendements inhérents aux activités économiques et industrielles du Grand Paris serviraient à rémunérer les investisseurs obligataires par le biais d'une transaction islamique, d'une obligation islamique adossée. Et c'est ce qu'on appelle des titres « asset backed », comme l'anglais est souvent plus clair que le français, adossé à des actifs réels.
Bien, merci infiniment, merci beaucoup Anwar Hassoun. Ça c'est un premier jet de dégrossissement pour que nous comprenions tous les mécanismes de la finance islamique. Vous reviendriez, si vous voulez bien, nous expliquer davantage. C'était Question d'Islam, chers amis auditeurs. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Intral. La prise de son était assurée aujourd'hui par Olivier Dupré et la réalisation a été assurée par Vanessa Nadjar.